Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi, d'être là avec nous. C'est le Seigneur qui nous invite à venir cet après-midi. Alors, nous allons commencer par un temps de prière, juste pour remettre ce moment, remettre ce temps entre ses mains. Remettre nos cœurs entre ses mains et que nos louanges montent vers lui, tout simplement. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps. Je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont ici. C'est toi qui nous invites et on veut juste te louer ce soir, t'adorer, te remettre nos soucis, te remettre nos quotidiens. Et viens Seigneur, c'est toi qui nous invites aujourd'hui. Et nous voulons monter nos louanges vers toi et nous nous attendons à toi. Je fais cette prière en ton nom Jésus. Amen.
Thank you. Thank you. Nous vous proposons aujourd'hui une méditation sur un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, des versets 1 à 7. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu es notre Père parce que c'est comme cela que Jésus nous a dit de t'appeler. Et tu es un Père qui ne cesse de nous dire que tu nous aimes, que tu nous pardonnes, que tu nous relèves, que tu nous remets en marche. Que ton esprit, qui a inspiré les auteurs bibliques, nous inspire aussi, ici et maintenant, pour que nous puissions entendre, discerner une parole qui nous vienne de toi, une parole de vie, une parole qui aide à vivre, qui aide à faire les bons choix, ici et maintenant, quand nous entendons les mots de ce texte que nous allons lire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Je lis donc ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 7. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et arrive dans sa ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière, un lit. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes, maîtres de la loi, spécialistes sur le plan juridique, se dirent en eux-mêmes en entendant cela, « Mais cet homme blasphème !» En effet, selon leur interprétation de la loi, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, de la Bible, de leur Bible, Dieu seul peut pardonner. Voyant leur réaction, Jésus dit, « Pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs ? Qu'y a-t-il donc de plus facile ? De dire, « Tes péchés sont pardonnés ? » Ou bien de dire, « Lève-toi et marche ! » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Et donc il se tourne vers le paralysé et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Cette personne se leva et s'en alla dans sa maison. Juste quelques mots pour actualiser pour nous ce passage, aujourd'hui, dans notre contexte. Nous traversons peut-être parfois des moments difficiles, des temps sombres, des moments d'angoisse, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Le récit de la guérison de cette personne paralysée montre que le pardon est plus facile et peut-être même plus pertinent que le relèvement de cette personne. D'un côté, il y a le pardon. Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et de l'autre côté, il y a cette demande de Jésus adressée à cette personne, lève-toi et marche. Tout d'abord, qu'est-ce que le pardon ? Qu'est-ce que j'entends à travers ce récit ? Pour les maîtres de la loi, les spécialistes de la Bible, à l'époque, qui étaient là, la maladie sanctionne un péché. Si cette personne est paralysée de cette manière, c'est-à-dire incapable de s'élancer vers les désirs de son cœur, eh bien c'est parce que cette personne a péché. Les fautes offensent Dieu d'après l'interprétation de la loi par ces personnes, d'après ce que j'entends. Les fautes offensent Dieu et lui seul doit juger les fautes. Juger, c'est-à-dire les pardonner ou les condamner. Et Jésus n'avait donc pas le droit de pardonner. C'est un blasphème, c'est-à-dire un outrage à Dieu. Or, Jésus introduit la possibilité du pardon, y compris pour les offenses entre les humains. Le pardon de Jésus délie cet homme, cette personne, de ses actes. Le regard de Jésus, en regardant cette personne, les yeux de Jésus voient cette personne meilleure que ce que les autres voyaient en elle. La personne humaine vaut plus que ses actes, que ce soit des bons actes, de beaux actes ou de mauvais actes, des actes qui ne valent pas la peine d'être vus, d'être entendus. Ce n'est pas le passé de cette personne qui intéresse Jésus, mais son avenir. Le pardon, voyez-vous, ouvre la possibilité d'un recommencement, la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Et dans ce récit, Jésus ne sollicite aucune contre-prestation, pas d'aveu, pas de regret, pas de foi. Parfois, dans certains récits, la foi est exigée, mais de la part de cette personne, il n'y a pas d'exigence de foi. Jésus voit la foi de ceux qui portaient la personne paralysée, mais de la part de la personne paralysée, il n'y a pas de contre-prestation demandée. Et comme le dit le philosophe protestant Paul Ricoeur, le pardon divin demeure. C'est-à-dire que le pardon divin est éternel, n'est pas inscrit, enfin n'est pas contraint par le temps chronologique de ce monde. Le temps de Dieu demeure, comme l'apôtre Paul dit, l'amour ne disparaît jamais dans son hymne à l'amour, dans le chapitre 13 de sa première lettre adressée aux Corinthiens. L'amour ne disparaît jamais, de même le pardon divin demeure, indépendamment du temps de ce monde. Alors que l'aveu qui en résulte, le regret qui en résulte, la repentance qui rend visible ce pardon, la confiance de la personne pardonnée, tout cela s'inscrit dans le temps. Jésus libère la personne paralysée d'un passé sanctionné par la maladie, un passé jugé fautif, parce que on voit la maladie qui en résultait, d'après la logique des gens de cette époque. Alors que la loi des scribes ne pardonne pas. La loi des scribes, c'est comme l'entropie, c'est comme la loi de la gravitation universelle. Quand on tombe, eh bien on tombe. On peut se faire mal. C'est la loi. On ne peut pas tomber vers le haut. On tombe vers le bas. À la place d'un passé condamné, le pardon, au contraire, propose un appel à la vie. Un appel à la vie et non à la mort. Une fois qu'on est appelé à la vie, qu'on accepte cette vie, notre récit raconte ensuite ce qui rend visible cette acceptation, ce qui rend visible le pardon de Dieu. Vous voyez, le pardon de Dieu nous est donné par une parole, par une promesse, et nous le vivons intérieurement. Mais ensuite, comment ce pardon vécu intérieurement, cette transformation intérieure, comment cela pourrait-il devenir visible ? Eh bien, ma traduction est explicite. La traduction que je vous ai lue dit « Qu'y a-t-il donc de plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « lève-toi et marche » ?» Et la réponse de Jésus, on la comprend assez aisément. Jésus dit à l'homme paralysé, à la personne paralysée « lève-toi ». Ça veut dire que le pardon, finalement considéré comme difficile ou impossible par les scribes, par les maîtres de la loi, aux yeux de Jésus, ce pardon-là est peut-être plus facile que le fait de se relever, le fait de rendre visible de ce qu'on a vécu intérieurement. J'entends là que le pardon est bien plus facile que le relèvement. Alors pourquoi est-ce que le relèvement est difficile ? Le signe extérieur qui rend visible le pardon se vit devant les autres. Quand on a commis une faute, quand on est malade, quand on est regardé bizarrement par les autres, quand on n'est pas reconnu dans ce qu'on est, eh bien, quand on essaie de changer, c'est difficile. Les autres ont du mal à reconnaître ce que nous sommes, ou ce qui a changé en nous. Le signe extérieur qui rend visible le pardon implique, en plus, des choix éthiques. Cela implique des démarches matérielles, le fait de se relever, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de cette loi de la gravitation qui nous attire vers le bas, se relever, eh bien, c'est quelque chose qui implique un engagement. Jésus demande à cette personne de vivre ce signe extérieur, ce relèvement, en deux étapes. Tout d'abord, bien sûr, le relèvement, mais ensuite, la marche. Se relever d'abord et marcher ensuite. Alors, prenons d'abord le relèvement. Dans notre récit, le mot utilisé pour dire le relèvement est un mot qui sert aussi à dire la résurrection. La résurrection, dans les textes du Nouveau Testament, contient l'idée très forte d'un retour à la vie, retourner à la vie, d'une réinsertion dans la relation aux autres. Retourner dans la relation avec les autres. Le pardon intériorisé n'a d'impact concret et visible sans l'acceptation de se lever et de se relever sans cesse. La vie est offerte chaque fois à nouveau, mais nous devons l'accueillir, nous devons la vivre. Et cela nécessite le courage. C'est un courage qui vient de la confiance du Christ. Il nous fait confiance. Quelle que soit notre situation, il est là et il nous fait confiance. Et cette confiance nous donne et redonne le courage. Courage d'être soi. Courage d'être cohérent avec soi-même. La spiritualité qui résulte de cette confiance du Christ est une spiritualité de cohérence, c'est-à-dire on est déjà aimé, on est déjà enfant de Dieu, et la spiritualité est une quête de cohérence avec cette situation, ce statut d'enfant de Dieu. Statut de cohérence parce qu'on a été relevé et pardonné. Et on se lève pour témoigner, on se lève pour louer Dieu, on se lève pour lui dire merci pour le pardon reçu et accepté, on se lève. Et une fois debout, le paralytique, la personne paralysée, est invité à marcher. Mais alors, qu'est-ce que la marche ? Il y a plusieurs manières d'interpréter la marche dans la Bible, chez les auteurs du Nouveau Testament notamment. La marche est une manière de vivre, c'est un choix. Très souvent, les auteurs du Nouveau Testament parlent de marcher dans la lumière, marcher selon un certain esprit. Et notre texte met en parallèle « Lève-toi et va dans ta maison » d'un côté, et « Lève-toi et marche » de l'autre. Donc le retour à la maison signifie, quelque part, une certaine manière de marcher. Notamment quand la marche constitue une réinsertion dans les responsabilités devant les autres. Rentrer à la maison, retourner à la maison, c'est renouer les relations avec les autres. C'est accepter une réinsertion dans les responsabilités que cela incombe. Mais la marche consiste en une attitude, surtout. Chez les auteurs bibliques, c'est cette manière de se comporter, ce choix de vie, cet engagement. La marche, c'est aussi souvent comparé à un déséquilibre qui est sans cesse rectifié. Vous savez, quand l'enfant apprend à marcher, nous avons tous été enfants à partir de un an, entre un an et deux ans à peu près, on essaie de mettre le pied, un pied devant l'autre, il y a un pas devant l'autre, et chaque marche est un déséquilibre, mais un déséquilibre sans cesse récupéré. Et c'est ça, la marche suppose une recherche, la marche suppose un esprit critique vis-à-vis de chaque cohérence trouvée. Là, je suis en cohérence, mais là, je cherche une nouvelle cohérence. C'est une cohérence en construction, sans cesse réformée. Se lever et marcher sont une manière de dire merci pour le pardon, sans cesse renouvelé, sans cesse accepté et reçu. Dire merci en se levant, en marchant, c'est une manière de louer Dieu. C'est une manière de louer Dieu. Je vais vous distribuer de nouveau une petite carte en mémoire de ce culte louange de ce soir. On a choisi avec Sophie de ne pas utiliser les crayons, mais je vois qu'il y a quand même quelques crayons là, si on veut. Vous pouvez écrire dessus ce que ce texte du relèvement et de la marche de la personne paralysée vous inspire.
Tu m'offres chaque
On vous propose un temps d'offrande. On peut refaire la même musique, je pense, le temps de l'offrande.
Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu. Le pardon est une transformation intérieure, invisible extérieurement, sans le témoignage et les signes qui l'accompagnent. On accepte le pardon de Dieu par un retour sur soi, une prière, une acceptation, une décision de notre cœur. Se lever et marcher sont une manière de dire merci pour le pardon reçu. C'est une louange. Que nous puissions repartir pour une nouvelle semaine qui commence demain avec cet engagement de rendre témoignage de la transformation intérieure que nous avons vécue, de toutes les transformations intérieures que nous vivrons, que nous trouvions le courage de les rendre visibles devant les autres, dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est cela, pour nous, ce sera la louange pour dire merci. Que cette louange, que cette paix, que cette joie, que ce courage nous accompagne aujourd'hui et à jamais. Amen.
Et je vous invite à rester debout pour ce dernier chant, un chant issu du livre des Nombres, une bénédiction qui vient de la part de notre Dieu, que vous vous l'appropriez pour vous-même, pour vos proches, pour votre famille.
sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
À tous d'être venus. Et bon dimanche à vous.
Et bonne semaine.